Alors, il nous fait plaisir d'accueillir tous les êtres de lumière présents dans cette pièce. Que ce soit dans la forme ou dans l'invisible. Et nous accueillons ces vibrations dans le triangle d'or parfait qui est le son, le souffle et la lumière. Et c'est dans cet accueil que nous souhaitons la bienvenue au chariot blanc, à ce véhicule de conscience nous reflétant notre conscience.
Bienvenue à vous, mes mandras.
Merci. Alors, il nous fait plaisir de vous accueillir dans cette première transe ou séance de groupe dans la belle ville de Paris.
La ville de la lumière.
Alors, ce soir, les questions seront lues par Odile Girardot. Et le thème, je vais demander à Odile de me le rappeler puisque je l'ai encore perdu.
Comment accéder à sa capacité d'être?
Alors, comment accéder à sa capacité d'être?
Oh là là! Il y a du travail dans ce thème. Nous allons procéder comme à l'habitude et offrir un commentaire d'ouverture. Un commentaire d'ouverture, c'est un trésor que chacun peut découvrir à son rythme, pour lui-même, avec un petit groupe ou dans un grand groupe, ou tout simplement dans le silence du cœur. Et alors ce soir, le commentaire sera le suivant. Un jour dans la ville de Paris, il y avait des gens qui marchaient rapidement sur la rue. Vous reconnaissez bien ceci, n'est-ce pas? Et deux hommes, depuis un certain moment, se suivaient l'un l'autre sans s'être remarqués. Mais tout à coup, le tonnerre gronda. Et les éclairs suivirent. Et ensuite, la pluie tomba d'averse. Alors les deux hommes se précipitèrent dans un petit café. Il y avait là une seule table disponible, avec deux chaises. Alors, sans trop savoir, ils s'assirent face à face. Puis, simultanément, ils se penchèrent, et dans leur petite mallette, ils sortirent un livre. L'un d'eux éclata de rire lorsqu'il vit que l'autre homme avait un livre tout à fait pareil au sien. Alors l'autre remarqua et il dit, c'est étrange, est-ce que vous êtes architecte? Non, répondit l'interlocuteur, mais je crois que depuis 7 jours, je l'ai été par la force de l'événement. Ah, vous êtes étranger, vous n'êtes pas parisien, vous avez un accent. Bien sûr, dit l'homme, je viens du Québec. Et alors les deux hommes se mirent à rire. Et ils dirent, c'est étrange que nous ayons le même volume. Et de plus, lorsque vous dites que depuis 7 jours, vous devenez par la force des événements un architecte, voulez-vous m'expliquer? C'est petit le café ici, et j'aurai trop de choses à dire. Alors je vous invite, vous êtes mon hôte. Et les deux hommes se dirigèrent vers l'appartement du Français. Une fois bien installé à table, sirotant un café, le Québécois se mit à raconter. Il dit, « J'ai fait un rêve qui a duré 7 jours. Je n'en comprends pas tout le langage, mais je sais que progressivement, je saurai, car je sais que je sais. » Et alors il dit, voici que j'ai compris que j'étais un esprit et que cet esprit était immense et qu'il était tellement grand qu'il possédait la clé de tout ce qui existe et que ce qui existait pouvait être, pendant un certain temps, enfermé dans une forme. Alors j'ai créé une forme pyramidale. Puis j'ai décidé, à bord de ce véhicule, de descendre dans la matière. Mais j'y suis descendue, point en bas. Et alors, j'ai pénétré profondément dans cette matière. Et pendant des milliers et des milliers d'années, je suis restée dans une obscurité. Une obscurité qui, au début, me plaisait bien parce qu'elle était nouvelle, mais qui, à longueur de temps, devenait insupportable. Alors, à un moment donné, je suis passée par la mort. Et après être ressuscitée, je suis retournée dans des plans où il y avait peu de mouvement, mais où il y avait toujours ce même appel. Alors j'ai créé à nouveau une pyramide, et je suis descendue dans le plan, et cette fois, point en haut. Et les mémoires qui étaient en moi me gardaient bien d'aller jusqu'en bas. Alors je suis restée dans la pointe de la pyramide. Et alors je cherchais le nirvana. Et alors je voulais être uniquement un être spirituel, accolé au soleil. Et j'ai brûlé mes ailes. Et voici que je suis passée par la mort. Et après la résurrection, je suis venue dans les temps présents. J'ai compris que j'avais traversé 5 races et que j'entrais dans la 6e race, la race de la conscience. Et alors je me suis demandé ce qu'il fallait faire. Et à nouveau, je me suis souvenue de la construction pyramidale et j'ai construit 2 pyramides, une tête en bas et une tête en haut. Lorsque ces 2 pyramides se sont interpénétrées, je me suis retrouvée au centre. Et là, j'ai touché une énergie nouvelle. Mais cette énergie, elle me rappelait des mémoires, les mémoires du temps où j'avais erré dans l'obscurité, les mémoires du temps où j'avais brûlé mes ailes au soleil. Et alors, une forme d'équilibre s'appelait à l'intérieur de moi. J'ai pris du temps, un temps considérable, plusieurs siècles, au moins quelques milliers d'années. Et là, je commence à éveiller la conscience. Elle teinte à l'intérieur de moi comme un carillon de lumière. Et alors, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Mais je ne sais pas encore. Alors, l'interlocuteur lui dit, « Tu me parles et je sens tout ce que tu me dis. C'est étrange, parce que moi, je n'ai pas vu les formes pyramidales. J'y étais appelé sans les comprendre, mais j'étais appelé par la forme du cœur. Et hier, dans mes rêves, j'ai vu un grand cœur cosmique. Je l'ai entendu battre, et dans ce cœur, il y avait des milliers de gens qui cherchaient la conscience. Est-ce que tu sais ce qu'est la conscience? Je ne suis pas certain, dit l'autre, mais je crois que c'est la vérité. Eh bien, moi, je crois que la vérité, c'est l'amour. Eh bien, moi, je crois que l'amour, c'est la création. Et alors, ils éclatèrent de rire et ils dirent, « Que pouvons-nous faire ?»« Nous unir, » dirent-ils ensemble, et ils éclatèrent de rire à nouveau. Et ils comprirent qu'alors, dans l'énergie, la conscience commençait à appeler la conscience et à contacter la conscience. Et qu'adviendra-t-il si nous habitons le cœur cosmique? Si nous habitons cette énergie, nous devrons nous délivrer des illusions. Et l'illusion, c'est de nous croire séparés, de croire qu'il y a en bas où c'est très obscur et en haut où c'est très lumineux. Alors, comment ferons-nous ceci? Nous appellerons ce qui est en bas dans le cœur et ce qui est en haut dans le cœur. Et alors, ce sera la noce des énergies, la noce des dualités. Et alors, la conscience s'ouvrira. Et alors, nous serons créateurs. Et alors, nous serons unis. Et nous pourrons créer cette Jérusalem céleste, puisque nous sommes tous des frères et que nous cherchons tous la même vérité qui est amour. Et c'est le commentaire que nous avons pour vous ce soir. Et maintenant, nous donnerons nos enseignements en réponse à vos questions.
Alors la première question, c'est comment peut-on se donner les moyens d'être ?
C'est d'abord de savoir dans un premier temps que vous êtes. Si vous croyez que vous n'êtes pas, de toute façon, vous ne pouvez pas vous donner des moyens. Mais si vous croyez que vous êtes déjà et qu'il ne reste qu'à actualiser cette conscience, alors les moyens, ils viendront d'eux-mêmes. Ils viendront à travers les événements quotidiens. Ils viendront à travers les personnes que vous croiserez, peut-être dans un petit café de Paris. Ils viendront à travers des sessions de croissance et des ateliers où vous serez confrontés à votre obscurité ou à vos illusions de lumière. Non pas que la lumière soit une illusion, mais l'illusion de la lumière est une illusion. La lumière, elle, elle est amour. Elle ne juge pas, elle ne condamne pas, elle n'est jamais inquiète. Elle ne connaît ni la mort, ni le doute. Alors, si vous voulez trouver des moyens, revenez dans le cœur. Le cœur, lui, c'est le lieu de la science. C'est le lieu de la connaissance parfaite et il vous indiquera qui vous avez à croiser, qui vous avez à rencontrer. Il vous fera apprendre le son. Il vous mettra en contact avec le souffle. Il vous donnera la formule de toute lumière. Et alors, vous n'aurez plus besoin de chercher. Vous saurez que tout est à portée de la main, que vous n'avez qu'à tendre la main du cœur. Et que ce dont vous avez besoin y sera déposé. Alors, les instruments, ils sont là partout, autour de vous. Il suffit simplement d'ouvrir le cœur. Vous avez d'autres questions?
Oui. Alors, la question suivante est, y a-t-il plusieurs maîtres sur la Terre qui enseignent comment découvrir Dieu à travers différentes méthodes et comment savoir quelles sont les bonnes méthodes?
Ça, c'est une question très intéressante. Oui, il y a plusieurs maîtres sur la Terre. Et ce soir, nous vous dirons que vous en êtes tous. Alors, vous aurez bien le droit d'en chercher au dehors de vous, car il y en a, et il y en a de très grands. Mais le plus grand, il est au-dedans de vous, et il s'appelle Christ. Il vous habite depuis toujours, car Christ, pour vous, c'est le personnage de Jésus. Mais Jésus était le canal ou le médium qui canalisait l'énergie de Christ, c'est-à-dire que cette énergie n'était pas encore reconnu sur le plan terrestre et il fallait des médiums pour être capable de venir en donner l'enseignement. Lorsque Jésus a dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Si vous cherchez ce royaume, tout vous sera donné par surcroît. » Il vous enseignait que la racine de l'énergie christique est au-dedans de vous. Alors, bien sûr, il y a des maîtres qui sont très grands sur le plan terrestre actuellement. Il y en a qui sont matérialisés dans la matière. Mais chaque maître vient pour rassembler des chélas ou des disciples de différents niveaux de croissance et de différents niveaux de conscience également. Imaginez par exemple que vous avez un peuple qui a besoin de sortir de l'esclavage. Alors, ils choisiront un maître qu'ils adoreront, et ce maître se laissera adorer pour un certain temps, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment travaillé pour permettre aux gens d'élever leur niveau de conscience et de reconnaître qu'ils adorent en dehors d'eux ce qui est au-dedans d'eux-mêmes. Peut-être y aura-t-il d'autres maîtres, des maîtres au niveau de la santé, des maîtres au niveau de la musique, des maîtres au niveau des arts, des maîtres au niveau de la science, des maîtres au niveau de la parole, des maîtres au niveau de la psychologie de l'être. Et alors, tous ces gens sont des maîtres. Ils sont des maîtres pour s'actualiser eux-mêmes. Nous vous dirons même que si les anges, les chérubins, les séraphins, les trônes, les dominations, enfin tous ceux qui appartiennent à la hiérarchie, se matérialisaient et venaient dans la matière, ils n'y viendraient que pour une seule raison, celle de s'actualiser dans la totalité de leur trajectoire. Et en faisant ceci, ils créeraient un mouvement de succion qui entraînerait les autres. Vous voulez reconnaître les maîtres véritables, alors ils sont ceux qui vous font reconnaître que vous êtes maître vous-même, et non point ceux qui vous rendent esclaves de leur énergie ou qui vous rendent esclaves de leur théorie ou de leur façon de penser. Le maître véritable est celui qui actualise sa propre pensée, qui la partage avec les autres, mais qui reconnaît la pensée de l'autre et qui la reconnaît dans sa totalité et dans sa perfection. La reconnaissant, il permet aussi à l'autre, en termes de vibration ou en termes d'échange vibratoire, de pouvoir, se reconnaissant, s'élever dans sa propre maîtrise. Le maître véritable est celui qui n'est pas plus grand, et celui qui se fait même parfois plus petit, afin que l'autre puisse se reconnaître dans sa grandeur. Après quoi, il lui dit, « Tu vois, je t'ai joué le tour, j'ai joué le jeu de la petite souris, mais comme toi, j'étais un géant. »
Est-ce possible pour maintenant de parler peut-être du discernement, puisque dans la question, il y avait « Est-ce vraiment la bonne méthode ? » Il y avait un questionnement à ce niveau-là aussi.
Sur la méthode, bien sûr. Merci André de nous rappeler ce trait. Nous vous dirons que toutes les méthodes sont parfaites pour certaines personnes, mais qu'une méthode sciant à l'un peut être très inconfortable pour l'autre. Nous vous donnons des exemples pratiques. Imaginez par exemple que vous décidez que vous voulez travailler en ce que vous appelez « rebirth » ou « renaissance », nous croyons, dans votre langage. Ceci vous permet à ce moment-là de vous amener dans un état second. Et une fois dans cet état second, vous élargissez suffisamment la conscience pour être capable de capter le passé, de l'amener dans le présent et peut-être même de capter déjà le futur et de l'amener dans le présent pour être capable, en faisant cette fusion, de vous projeter plus loin. Ça, c'est une méthode. Les uns pourront y être très confortables et pourront reculer jusque dans les passés les plus lointains pour aller chercher de leurs racines afin de se reconnaître. Mais d'autres pourront s'y heurter comme à un mur, étant dans un état où il recontacte des vibrations qui sont difficiles à vivre, des vibrations qui sont, nous dirons, de torture ou de malaise ou de souffrance. Et alors, ils ne veulent pas ramener ces vibrations dans le présent. Ils préfèrent choisir d'autres méthodes. Ceci est parfait pour celui à qui ça convient. L'autre pourra décider que lui, il choisit la voie de la contemplation et qu'il avance dans une forme de désert, sachant que dans ce désert, il y a un oasis qui n'est pas à l'horizontale, mais qui est à la verticale, et que cette oasis lui présente son propre miroir, et qu'alors il est appelé à traverser ce miroir. Mais pour le traverser, il doit laisser derrière lui sa densité. Alors celui-là pourra, par cette méthode, traverser son propre miroir et toucher les éléments de conscience qui sont nécessaires pour continuer sa trajectoire. Un autre pourra procéder autrement. Il pourra décider que lui, sa voix, c'est le son, ou que sa voix, c'est la musique. Et alors, il ira chercher le son. Il amènera le son, le souffle et la lumière à l'intérieur de sa vibration, à l'intérieur de son énergie, pour que ce son, ce souffle et cette lumière lui révèlent la partie de lui qui est dense et la partie de lui qui est subtile, pour que ces deux parties de lui puissent se fusionner et devenir cette lumière et devenir cet amour dont nous avons parlé dans le commentaire. Alors, lorsque vous vous retrouvez devant une méthode, voyez si elle vous convient, peut-être à 10%, à 20%, à 80%. L'important, c'est que vous choisissiez la voie qui est vôtre à travers cette méthode.
Alors, la prochaine question, c'est: est-ce que Jésus-Christ et la Sainte Vierge font des apparitions sur la terre actuellement?
Certainement. Nous vous dirons que Jésus est apparu de façon, nous dirons, presque constante depuis qu'il a quitté le plan terrestre. Cependant, il ne s'est pas toujours manifesté dans une forme reconnaissable. Parfois, il s'est manifesté, disons, à travers 100 personnes qui avaient accepté de venir vivre des états différents sur le plan terrestre. Nous donnons un exemple. Nous savons que l'énergie de Jésus est une énergie tellement puissante qu'elle ne pourrait plus être dans une seule incarnation, mais qu'elle peut être dans une multitude d'incarnations à la fois, en même temps qu'il est sur d'autres plans. Lui et des multitudes de maîtres ont cette capacité. Alors, nous vous dirons que Jésus, parfois, s'est incarné à travers des enfants. Des enfants, par exemple, qui ont accepté de façon inconditionnelle, avant leur naissance, de venir vivre des états aussi douloureux que le cancer, des états aussi douloureux que la poliomyélite, des états aussi douloureux que la maladie mentale. Et nous vous dirons, il y a des multitudes de formes. Alors, c'est comme si ces enfants pouvaient tenir le même langage que Paul tenait lorsqu'il disait: j'achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Lorsqu'il utilisait ce langage, il voulait dire qu'il y a des multitudes de gens, et vous en êtes, qui sont sur le plan terrestre et qui ont accepté, avant l'incarnation, de venir canaliser des énergies très denses pour pouvoir arriver à les faire se transformer et se transmuter. Par exemple, mère a canalisé. Vous connaissez cette femme qui est née du pays de la France et qui a vécu à Pondichéry en France et qui a accepté de canaliser l'énergie de la mort pour que la mort puisse mourir. Alors, jour après jour, elle vivait la mort dans ses milliards de cellules et sachant que chaque fois qu'elle avait la conscience qu'une de ses cellules entrait dans la mort, cette cellule était immédiatement renouvelée par l'énergie de l'ascension, par l'énergie de résurrection, par l'énergie de la vie qui n'a pas de fin. Et alors, nous vous dirons que Jésus est venu sur le plan terrestre de cette manière. Mais il vient encore. Il s'est adressé déjà à des enfants à Lourdes. Il s'est adressé aussi à la Salette, où c'est plutôt Marie, mais Jésus et Marie sont des énergies qui ne se séparent pas. Tantôt c'est l'un qui prend la relève de l'autre. Nous en parlerons tout à l'heure. Et ensuite, nous vous dirons que Jésus est aussi apparu à une femme appelée Magdeleine au Mont, dans aussi le pays de la France. Nous vous dirons qu'il parle actuellement à travers une énergie appelée Sananda, dans le pays de la Californie, dans l'Amérique, dans le pays d'Amérique ou le continent d'Amérique.
Amérique du Nord.
Exactement. Mais nous vous dirons qu'il apparaît aussi à trois personnes qui n'ont pas encore révélé ceci dans le pays du Québec, parce que ceci doit être gardé secret jusqu'en l'an 2012. Alors nous vous dirons, oui, Jésus apparaît. Parfois, il apparaît dans un trait très rapide à une personne, soit par le biais du rêve, ou soit, nous dirons, dans une méditation. Mais nous vous dirons que son énergie, que vous appelez Jésus, c'est plutôt la transposition de l'énergie christique qui descend à flot sur le plan terrestre. Et nous vous dirons que Marie, qui représente l'état de virginité, et la virginité, c'est la fécondité, c'est l'énergie créateur. Oui, elle est là, elle est présente, ils sont tous les deux ici, ce soir, avec le comte de Saint-Germain, avec Melchisédek, avec Brian Grattan et avec un grand nombre de maîtres qui sont heureux d'être présents à cette assemblée.
Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, de relater ces énergies? Quel effet ont-ils sur notre capacité d'être ou dans la recherche de notre capacité d'être?
Nous vous dirons ce qu'ils viennent faire en infusant de l'énergie sur le plan terrestre. C'est se réaliser eux-mêmes. Et alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils émettent des vibrations qui viennent toucher les consciences pour que les gens soient dans ce même flot énergétique et veulent aussi développer cette conscience ou cette réalité d'être, comme vous l'appelez. Nous, nous l'appelons la conscience véritable et la conscience constante. Alors, nous vous dirons, tout est énergie et tout est vibration. Ceux qui sont dans des vibrations plus subtiles viennent toucher l'énergie plus dense et la touchant, ils se propulsent. Et l'énergie plus dense, recevant cette vibration, s'élève à son tour et vient dans la masse émettre des vibrations pour que tous nous puissions en loi de résonance nous permettent les uns les autres d'avancer toujours plus avant dans cette conscience qui est infinie. C'est confirmé par la cloche.
On peut vous offrir un peu. peu de champagne. On sait que vous aimez sabrer le champagne.
C'est pas fait. C'est lourd.
C'est la matière.
Nous vous remercions, André. Nous avons bu le champagne de la compassion.
Alors, la prochaine question.
Alors, ceci est une question qui, en fait, demande une précision par rapport à ce que vous venez d'expliquer. Est-ce que Maharaji, qui se manifeste avec une présence pleine d'énergie, est Jésus-Christ réincarné ou Bouddha réincarné?
Nous venons de dire que ni le Bouddha, ni le Jésus ou ni l'énergie christique ne peut se réincarner dans une seule personne. Alors, quant à l'énergie du Maharaji, nous vous dirons qu'il canalise lui-même une énergie très puissante qui est à la fois bouddhique et christique, mais qui n'est pas seul à canaliser l'énergie, et vous pouvez le voir comme s'il était une boule de feu et que à cette boule de feu, il y a des milliers de tentacules et au bout de ces tentacules, il y a d'autres soleils. Alors, nous vous dirons, un seul être sur le plan terrestre ne peut pas canaliser toute cette énergie. La conscience est déjà trop évoluée dans le plan pour que ceci puisse s'incarner dans une seule matière.
La prochaine question, c'est comment puis-je développer ma médiumnité?
En sachant que vous êtes déjà médium. D'abord, vous avez des critères par rapport à la médiumnité. Pour vous, la médiumnité ressemble à ce qu'étaient les prophètes qui parlaient dans le désert, ou à des prophètes comme l'était Moïse, ou Jacob, ou Abraham, ou Jésus, ou Paul, ou Pierre, ou tant d'autres. Mais nous vous dirons que celui qui est en harmonie et qui ne fait qu'un avec son instrument de musique est un médium. Celui qui ne fait qu'un avec son pinceau et qui peut, à travers cet instrument, émettre des vibrations de couleurs si intense qu'elle puisse toucher la conscience, il est médium. Celui qui est là, dans un petit restaurant, dans la cuisine d'un restaurant, et qui fabrique des petits pains, et qui, avec le levain, dépose toujours 3 grains d'amour, est un médium. Alors développer la médiumnité, c'est aimer. Et si vous vous aimez, jusque dans vos milliards de cellules. Et si vous aimez la terre, et si vous aimez vos frères, et si vous aimez le cosmos, et si vous aimez tout ce qui est, alors vous serez médium. Et la formule, elle vous viendra comme une lettre à la poste. Alors, ne cherchez pas de formule. Acceptez celle de l'amour. Bien sûr, l'amour est exigeant parce qu'il suppose la conscience. Et la conscience suppose la transformation. Et la transformation suppose le changement. Et le changement suppose le détachement. Et suppose aussi la libération de tout ce qui vous retient attaché, de tout ce qui vous retient esclave d'une certaine façon. Il n'y a pas une seule personne dans cette pièce qui ne soit pas médium. Être médium, ce n'est pas compliqué, c'est être une antenne. Vos radios ont des antennes, n'est-ce pas? Vos voitures en ont également. Vos télévisions aussi. Seriez-vous moins que ces instruments?
Pourquoi, plus je prends conscience de ma réelle nature, de mon intériorité divine, plus ma situation matérielle est catastrophique? Y a-t-il un phénomène de vase communicant obligatoire entre la richesse spirituelle et la richesse matérielle?
Ça, c'est une question intéressante. Nous vous dirons que lorsque vous appelez la richesse spirituelle, que vous appelez la lumière et l'amour et la conscience à l'intérieur de vous, sachez que la conscience, lorsqu'elle pénètre, elle est comme l'épée de Michaël. Parfois, elle tranche et elle détruit, mais elle détruit pour reconstruire. Alors, si dans votre démarche spirituelle, vous vous rendez compte qu'à mesure que vous recevez spirituellement, vous perdez au niveau de la matière, sachez que l'épée est en train de trancher dans des aspects karmiques très importants. Nous donnons un petit exemple. Revenez au commentaire d'ouverture. Vous vous souvenez l'homme qui s'était perdu dans la densité de la matière et l'autre qui s'était perdu dans la densité de l'esprit et qui avait jugé la matière. Et alors, parce qu'il avait jugé la matière, nous vous dirons, lorsqu'il redescend et qu'il veut faire le collapsing ou l'unité de ces deux forces à l'intérieur de lui, alors les mémoires remontent. Et il se peut que pour un certain temps, vous soyez dépouillé de la matière. Mais quand vous comprendrez que la matière est spirituelle, que la matière est aussi spirituelle que la démarche que vous faites dans un état de conscience altéré, alors cette matière, elle se transformera et elle viendra au-devant de vous. Mais en attendant, acceptez de payer les dettes karmiques et de couper la carte de crédit. Cependant, il vous reste les dettes à payer, car les dettes que vous avez engendrées, vous allez les payer par justice pour vous-même.
Que signifie l'amour lorsqu'il arrive et repart d'une manière aussi entière et absolue 2 mois après? Quel sens a le don, la tendresse, l'abandon, l'amour physique lorsqu'on vous le donne et qu'on vous le retire de la même manière?
Alors, nous vous dirons que cet amour physique dont vous parlez n'est pas nécessairement l'amour. Il est un miroir de l'amour. Et peut-être aussi un faux semblant de l'amour. Alors s'il vient et repart aussi vite, applaudissez ceci. Sachez que ce miroir que vous avez créé de quelqu'un qui venait au-devant de vous pour vous donner la tendresse n'était qu'un miroir pour vous enseigner que cette tendresse, c'est vous qui devez vous la donner à vous-même, que vous êtes complet, que vous êtes total, que vous êtes la totalité de la totalité, et qu'alors vous vous créez des multitudes de petits miroirs autour de vous, vers lesquels vous tendez les bras, et que vous suppliez de vous donner l'amour. Mais voici que tout à coup, votre conscience réagit, et elle vous dit, « Mais tu ne sais pas que tu es l'amour toi-même. » Et alors l'autre a peur, et il s'en va. Lorsque vous aurez découvert que vous êtes l'amour véritable, à ce moment-là, vous n'aurez plus de préférence. Tous seront égaux pour vous, et le donner et le recevoir n'auront même plus besoin d'exister, puisque vous serez dans le « je suis » du « je suis ». Le soleil ne demande pas. Le soleil est. Mais vous direz, le soleil donne de sa chaleur? Pas du tout. Le soleil est, il émet sa chaleur. Vous la recevez, bien sûr, mais pas parce que son intention c'est de la donner, c'est parce que c'est sa nature d'être que d'être le soleil et d'émettre la chaleur. Alors, ça, c'est le symbole parfait de l'amour. Être la totalité de ce que vous êtes. Et si vous êtes cette totalité, vous allez attirer à vous des miroirs. Mais vous comprendrez que ce sont des miroirs. Alors, vous ne vous attacherez pas. Et lorsque le miroir dira « Je dois aller poursuivre mon expérience ailleurs », vous ne serez pas blessé non plus, parce que vous comprendrez que vous venez de terminer un degré et que vous pouvez aller dans un autre. Comme, vous savez, vous n'avez pas besoin de répéter l'école maternelle pendant 20 ans, vous pouvez faire ça et l'année suivante autre chose, n'est-ce pas? Il en est ainsi de toutes vos expériences d'amour. Lorsque vous aurez trouvé l'amour en vous-même, vous le verrez partout, mais sans préférence. Nous savons que ce langage est difficile. Nous savons que peut-être dans vos têtes, car nous entendons ces... Vous savez, nous entendons ceci, nous sommes sur la terre quand même, nous sommes sur le plan de la matière quand même. Bien sûr que vous êtes sur le plan de la matière, mais c'est à partir du plan du cœur que nous vous parlons.
Alors cette question fait référence à ce que vous évoquiez tout à l'heure au sujet de Jésus-Christ. Comment pouvez-vous expliquer le fait que j'ai cru vivre dans mon corps la descente de la croix?
C'est parfait. C'est absolument parfait. Nous vous dirons, certains parmi vous vivront 3 jours dans le sépulcre et connaîtront ensuite la résurrection dans le cœur. D'autres connaîtront la crucifixion sous forme de maladie, sous forme de sida, sous forme d'angoisse, sous toutes ses formes. Mais ce que vous devez savoir et qui est très important au niveau où vous êtes rendu, c'est que ce que vous faites maintenant, vous ne le faites pas pour votre seule identité personnelle, mais vous le faites pour la collectivité, c'est-à-dire que le fardeau que vous portez, comme cette descente de la croix que vous avez senti vivre à l'intérieur de vous, elle est réelle. Jésus, il n'est pas absent de votre multidimensionnalité. Il fait partie de vous. Et alors, c'est comme si dans vos cellules, vous deveniez le canal de cette énergie. Vous deveniez le canal de cette libération. Vous deveniez le canal de cet abandon total, de cette traversée de la mort, pour que des êtres, des multitudes d'êtres qui dorment encore à la conscience puissent être éveillés. Alors, vous vivrez toutes sortes de choses, mais sachez que vous ne le vivez pas uniquement pour votre individualité, mais que vous le vivez pour une collectivité d'âmes. Vous tous qui êtes de cette ville de Paris ou des banlieues environnantes et qui appartenez à ce pays appelé la France, vous avez votre karma individuel, vous avez votre karma familial, vous avez peut-être un karma de couple, un karma de parents, mais vous avez aussi un karma social, un karma français. Et nous vous dirons, ce n'est pas toujours un karma très joyeux que le karma français, parce que dans votre pays, il y a eu beaucoup de guerres et beaucoup de colère. Et il se peut qu'il vous soit demandé dans la conscience de canaliser la colère, c'est-à-dire de sentir, nous dirons viscéralement, à l'intérieur de vos cellules cette colère, même si vous avez l'impression qu'elle ne vous appartient pas, mais de la vivre pour la canaliser, pour l'accueillir et pour lui dire « Enfin, je t'accueille, tu es une énergie et parce que tu es cette énergie, je sais que tu peux changer de plan vibratoire. » Et alors, à ce moment-là, vous libérez beaucoup de gens qui sont prisonniers de leur colère.
Avant de poser cette question, je voudrais savoir si le chariot blanc comprend l'espagnol.
Nous vous dirons, le chariot blanc comprend toutes les langues de la Terre et nous dirons même les langues du cosmos. Cependant, le chariot blanc est limité par la forme Louise qu'il a choisie comme canal, de sorte que par elle, il peut canaliser la langue française, il peut canaliser la langue anglaise et il peut canaliser la langue vibratoire que tous peuvent entendre.
Alors j'ai demandé à une personne de l'assistance qui parle espagnol, voilà, traduire, merci. Parce que ça a été rédigé en espagnol.
Cher frère, je désire que tu me dises quel est le nom de mon ange et si je suis préparé pour guérir.
Merci.
Si je suis préparé
pour guérir.
Pour guérir. Il y a une bataille actuellement dans le corps de la forme entendant ce mot de guérison. Nous expliquerons. D'abord, nous dirons à cette personne que l'ange qui l'accompagne porte le nom d'Uriel et qu'elle n'a pas à craindre. Certainement, nous vous dirons que le mot de guérison contient à l'intérieur de lui le mot de maladie. Alors, ne vous en faites pas une obsession, mais s'il était possible, utilisez au lieu du mot guérison le mot transformation ou le mot changement vibratoire de conscience. À ce moment-là, vous ne cristallisez pas le mot de maladie, car le mot de maladie doit disparaître sur le plan terrestre. Nous ajoutons à ceci, pour cette personne et pour l'Assemblée en général, que d'ici l'an 2002, il y aura trois grandes vagues. Une concernant la maladie, l'une concernant l'argent et l'autre concernant la sexualité, c'est-à-dire que ces trois vibrations seront malaxées de sorte que vous ne saurez plus. Et nous vous dirons ensuite, après ce temps, nous dirons pas pour tous aussi longtemps, les uns traverseront le tunnel plus rapidement, mais nous vous dirons que pendant cette étape, il y aura sur le plan terrestre, nous dirons, presque une conflagration. Il y aura, nous vous dirons, une forme de fléau. Ne le voyez pas négativement. C'est le feu qui vient, non pas détruire, mais transformer. Et alors, nous vous dirons, le mot de maladie devra disparaître complètement. Voyez déjà comment le mot de maladie est devenu inconfortable. Voyez vos institutions qui gèrent la maladie. Ils ne gèrent pas la santé, ils gèrent la maladie. Et alors, comme ils gèrent la maladie, les gens doivent être malades. Et alors, ils se rendent dans ces institutions et ils se créent la maladie jusqu'à ce que la maladie devienne tellement inconfortable que les institutions sont trop petites, qu'elles ne sont plus gérables et qu'alors c'est le grand fouillis. Les gens sont alors forcés de retourner chez eux et de savoir que ce qu'ils appellent la guérison s'appelle aussi la conscience et la capacité de transcendance et la capacité de transformation de la matière. Et alors, la maladie peut disparaître et filer sa route. Elle n'a plus besoin d'être expérimentée sur le plan. Nous ne disons pas ceci de façon péjorative. Nous disons ceci uniquement pour éveiller la conscience. Car chaque pensée et chaque parole que vous émettez émet une vibration et crée des formes qui sont correspondantes à cette vibration. Alors, commencez à changer le langage.
Alors, la dernière...
Nous pourrons prendre encore deux ou trois questions, après quoi nous devrons quitter la forme.
Bien, je n'en ai plus qu'une que je vais vous lire. Les essais nucléaires ont-ils une incidence sur des plans supérieurs au plan physique ?
Un instant. Nous vérifions si nous pouvons donner l'information intégrale à ce sujet. Ce que nous voyons, c'est que les essais nucléaires pourraient avoir, pour le plan terrestre, des éléments très bénéfiques, qui seraient les suivants. De permettre à tous les gens de tous les pays d'affirmer qu'ils ne veulent plus la guerre et qu'ils s'opposent à la guerre, et qu'alors, collectivement, ils se mettent d'accord pour ne plus payer les impôts au gouvernement tant que les gouvernements n'auront pas signé à l'ONU des papiers comme quoi toute guerre est terminée. Alors, nous vous dirons, les essais nucléaires auront eu l'effet d'une bombe beaucoup plus grande que celle que vous pouvez soupçonner s'ils étaient véritablement manifestés dans la matière. Lorsque vous dites, est-ce que cela a effet dans d'autres plans? Certainement. Nous vous dirons d'abord que les essais nucléaires qui ont déjà été faits sur le plan terrestre ont été une grande école de conscience. Peut-être pas suffisamment grande pour que tous les gens de la planète se lèvent et disent « nous ne voulons plus la guerre ». Déjà, il y a des petits groupes de gens qui disent « nous nous opposons aux essais nucléaires ». Et alors, ils ont raison. Mais le noyau est tellement petit. Comment pourront-ils tenir devant des gouvernements têtus? Car nous vous dirons, dans les gouvernements, il y a des gens de la hiérarchie supérieure, mais il y a aussi des gens de la hiérarchie de l'astral et qui veulent le pouvoir et qui maintiennent le pouvoir et qui veulent ces essais uniquement pour éliminer une partie de la race pour pouvoir garder le pouvoir. Cependant, sachez ceci avec certitude et répétez cette pensée pour qu'elle puisse se créer dans la matière. Sachez que le pouvoir qui est injuste dévore toujours le pouvoir. Alors, nous vous dirons, dans d'autres plans, bien sûr, il y a des effets. Lorsqu'une seule personne émet une vibration d'amour sur le plan terrestre, lorsqu'une seule personne retourne dans le sanctuaire intérieur pour reconnaître sa totalité, nous vous dirons, le cosmos tout entier en reçoit la vibration. Alors, s'il y a des vibrations de haine ou de colère sur le plan terrestre, bien sûr, le cosmos reçoit ceci. Nous vous dirons qu'il y a des maîtres de la hiérarchie qui travaillent incessamment avec Kutumi et avec Sanat Kumara afin que les essais nucléaires n'aient pas lieu. Mais ils ne peuvent rien faire tant que la conscience humaine ne se sera pas levée debout, tant que les gens par milliers n'écriront pas des articles et des lettres aux gens de leur gouvernement pour leur dire « Nous nous opposons, nous nous regroupons, nous allons nous imposer et alors il n'y aura plus de gouvernement, vous ne pourrez plus gouverner si vous allez dans ce sens. Il n'y a pas un seul gouvernement qui ne tremblera pas dans sa culotte d'entendre un tel langage multiplié par mille et par milliers. » Alors, vous savez quelle action prendre.
Alors, il y a deux questions. Une, c'est quel sens donner au fait d'avoir subi, en nom de Alpha, les mains de Jésus sur mon corps?
Nous vous dirons de changer la vibration et de décoder dans votre tissu cellulaire des nœuds qui étaient trop puissants pour être décoder avec la conscience que vous aviez actuellement. Nous vous dirons de plus, ces mains ont laissé des empreintes puissantes dans votre énergie. Et nous vous dirons que ce soir, plusieurs personnes dans cette salle, qu'elles soient conscientes ou non, ont reçu une améthyste au fond. Alors, que vous ayez la conscience ou que vous n'ayez pas la conscience de ce qui se passe, les choses se font quand même, car nous dirons le grand mouvement spiralaire de la conscience vous emporte un peu comme une feuille au vent avant que vous n'ayez pu amener dans votre 15 ou 20% de ce qui est incarné dans la matière, conscient de tout ce qui n'est pas incarné, ou c'est-à-dire de tout de toutes les parties de vous qui sont déjà, nous dirons, dans des plans plus subtils ou dans ce que vous appelez l'invisible, ou que vous appelez l'énergie, ou que vous appelez l'ordre de Melchisédek, ou que vous appelez le chariot blanc, ou que vous appelez l'énergie des Michaël. Alors nous vous dirons que toutes ces assemblées ne font qu'une et que le chariot blanc tente d'avoir des contacts partout pour les distribuer à la grandeur du plan terrestre. Et le chariot blanc, ce n'est pas uniquement André, ce n'est pas uniquement la forme Louise, c'est tous les gens qui sont touchés par cette vibration consciente ou inconsciente. Alors vous êtes tous des chariots blancs.
Là, comme dernière question, et peut-être vous pouvez vous servir de cette question-là pour conclure. Quelle est au juste la capacité de l'être?
Lorsque vous parlez de capacité, vous enfermez dans une mesure. Alors nous vous dirons que l'être est infini et sans mesure. Donc, vous pourriez dire qu'il est sans capacité, mais ceci serait trompeur dans vos termes. Alors nous vous dirons que l'être n'a pas de limitation, il n'a que les limitations qu'il se met lui-même. C'est cela la création, et c'est ainsi que Dieu, à travers chacun de vous, veut permettre à ce qui est limité de prendre expansion pour connaître l'illimité. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes tous illimités à jamais. Alors, en terminant ceci, nous vous couvrons d'une énergie de couleur or, énergie qui descend du 12e rayon, et nous demandons à la hiérarchie qu'elle puisse vous permettre d'intégrer les vibrations que vous avez comprises par les voies de la parole et les vibrations qui ont été émises par la voie vibratoire du canal d'André, afin que vous puissiez retourner chez vous et intégrer cette force et cette puissance. Amen.
Alors nous remercions le chariot blanc. Nous remercions ce véhicule de conscience, nous reflétant cette conscience que nous sommes. Et nous accueillons cette vibration, d'ailleurs toutes ces vibrations, dans le cœur. Là où il y a le son, le souffle et la lumière.
Amen.
En suivant les besoins, veuillez s'il vous plaît ajuster tout au vibratoire, le système sanguin et tout système physiologique qui ont pu être ralentis au niveau de la forme, afin que ceux-ci reprennent leur vibration dans le ici et maintenant.
This is done.
Alors que ce corps se réveille, se sentant pleinement régénéré et complètement équilibré.
This is done.